Bonsoir, cette semaine, une série à réentendre, L'animal et l'avenir de l'homme.
Matière à penser, Dominique Rousset.
Et ce soir, dernier épisode de notre série L'animal et l'avenir de l'homme. Depuis lundi, en effet, nous avons exploré la connaissance scientifique sur le monde animal, sur les formes de la domination humaine, sur les souffrances aussi infligées à de très nombreuses espèces. Nous avons reconnu la beauté de la biodiversité et les dangers qu'elle court. Hier soir, autour d'un récit assez saisissant de transposition de la condition animale à l'homme, nous avons évoqué le rôle de la littérature dans tous ces débats. Plus pragmatique ce soir avec notre invité, nous verrons la nécessité de faire le point sur les évolutions du droit. Accompagne-t-il les découvertes récentes sur l'intelligence et la sensibilité de l'animal? Prend-il position contre les élevages industriels, les abattoirs et toute forme de cruauté? Est-il confronté au poids des cultures et des traditions dans le cas de pratiques de chasse ou de jeux centenaires par exemple? Toutes ces questions autour d'une discipline émergente qui, dans le cas de la France, se doit aussi de se confronter à d'autres législations et d'avoir une vision européenne. Notre titre donc, L'animal saisi par le droit. Bonsoir Claire Vial.
Bonsoir.
Professeur de droit public, Université de Montpellier, vous êtes aussi spécialiste de droit européen, on va le voir, et vous avez beaucoup travaillé sur les droits de l'homme, sur le droit de l'Union, donc je l'ai dit, avec une approche par définition supranationale, ce qui va être très utile dans notre entretien. Je dis, c'est une matière émergente, cette question du droit de l'animal. Vous n'êtes pas si nombreux, j'ai regardé un petit peu les universités qui s'intéressaient à ces questions. D'où vient cet intérêt pour les animaux, déjà dans votre cas personnel, et pourquoi le droit se penche-t-il enfin, j'allais dire, sur la question?
Alors, ça fait beaucoup de questions.
Oui, pardon. Allez, on commence par la première.
Alors, la discipline a émergé. Alors, c'est difficile de dater la naissance d'une discipline, en fait, parce que vous avez des règles de droit extrêmement disparates qui concernent l'animal, et on parle d'émergence d'une discipline quand il y a, en fait, une forme de structuration de ces règles. Cette émergence, on la doit, je pense, à Jean-Pierre Marguenot, qui est professeur de droit privé à Limoges, qui était précurseur, puisque lui, il avait rédigé une thèse en 1987 sur l'animal en droit privé. C'était très courageux à l'époque. Et ensuite, il a créé, avec Florence Burga et Jacques Leroy, une revue, la revue semestrielle de droit animalier. Et là, on a eu un véritable engouement par la suite de plusieurs juristes qui ont rejoint l'équipe, etc. Et ça a été mon cas. Et puis ensuite, on a même créé un diplôme universitaire de droit animalier qui est dirigé par Lucille Boisseau-Sauvinski et Jean-Pierre Marguenot. Et moi, mon intérêt est venu de la rencontre, justement, que j'ai eue avec Jean-Pierre Marguenot en 2012. Je lui ai fait part de mon intérêt pour les animaux, juste les animaux, même pas tellement pour le droit animalier. Et lui m'a dit, ce serait bien si tu pouvais écrire pour la revue semestrielle de droit animalier. Et c'est comme ça que j'ai fini ensuite par intégrer l'équipe.
Ouais. Alors c'est vrai que nous, on parle. Si vous permettez que j'ajoute un petit élément de votre parcours personnel. Oui. D'abord, vous aimez énormément les animaux. Vous avez la passion du cheval. Je crois que vous êtes une très bonne cavalière.
Pas une très bonne cavalière, une cavalière.
Une cavalière. Très bien. J'ai pas vérifié. Vous avez travaillé beaucoup donc sur les cultures, les traditions. On va y revenir. Et ça vient peut-être de la région dans laquelle vous vivez. Je ne sais pas. Vous aimez bien les courses camarguaises, sans mise à mort, je le précise. Et vous êtes, il faut le dire également, une repentie de la corrida.
Oui, c'est vrai qu'on peut me qualifier comme ça. J'ai beaucoup pété à la corrida. Et je n'y suis plus allée à peu près au moment où j'ai commencé à écrire en droit animalier. Je pense que j'ai encore beaucoup de contradictions, mais celle-là, j'ai réussi à la résoudre. Globalement, on va dire que les contradictions, on les trouve beaucoup chez les juristes, justement, s'agissant des courses de taureaux. J'ai beaucoup de collègues qui vont à la corrida et qui, en même temps, écrivent des papiers sur le droit animalier. Moi, je suis arrivée au stade où, quand j'allais aux arènes, je voyais la bête, alors que je ne la voyais peut-être plus tellement au départ, de la même manière que je vois la bête dans mon assiette. C'est, je pense, ça qui fait modifier nos comportements avant même le droit.
Un point intéressant, j'ai dit que vous êtes la cinquième de cette série sur le monde animal que nous avons souhaité faire. Et je me suis rendu compte que mes 5 invités avaient à peu près les mêmes propos au sujet de la consommation, par exemple.
Oui.
Bah, je pense que travailler sur ces questions sans...
Non, c'est une prise de conscience. Il est normal et même souhaitable, j'imagine, qu'à force de travailler sur un sujet, on modifie sa manière de vivre en relation avec ce sujet-là. Je ne dis pas qu'il aurait été complètement aberrant que je sois dans les arènes et qu'en même temps, j'écrive sur les arènes. C'est pas du tout le problème. Mais c'est juste que pour moi, ça s'est passé de cette manière-là. Au bout d'un moment, la souffrance est devenue beaucoup plus visible qu'elle ne l'était au départ. Même si j'en avais la conscience.
Idem pour la consommation, on va revenir aussi sur la question de l'élevage. Vous avez travaillé là-dessus. On a déjà remarqué, vous avez parlé à plusieurs reprises de droit animalier et non pas de droit des animaux. Pourquoi ?
Oui, alors on parle de droit animalier qui est un terme plus englobant. Quand on parle de droit des animaux, tout de suite, on pense à l'attribution de droits aux animaux et donc à une visée de personnification. Tous les juristes qui travaillent sur l'animal ne visent pas nécessairement une logique d'attribution d'une personnalité juridique ou de droits aux animaux. Et puis par ailleurs, de toute manière, le droit animalier couvre toutes les règles de protection de l'animal, mais aussi les règles de protection de l'homme à l'égard de l'animal. Donc c'est l'animal sujet du droit, mais plutôt au sens de sujet-objet plutôt que de sujet de droits fondamentaux.
En fait, le droit n'est pas resté indifférent à des débats qui sont parfois très très passionnés autour des animaux et qui sont en train en plus de prendre pas mal d'importance. Vous le dites d'ailleurs en présentant cette fameuse revue dont que vous avez mentionnée, à laquelle vous collaborez, deux universités, Limoges, et donc avec Jean-Pierre Mariano dont vous avez parlé, et Montpellier, votre université. Vous dites associé depuis toujours, au fond, à la survie économique de l'homme, l'animal indispensable à son équilibre affectif. On peut parler aussi des animaux de compagnie et domestiques, placés au cœur de crises sanitaires. C'est vrai que le droit a eu son mot à dire et largement des défis écologiques aussi. Les animaux, je vous cite, s'arrangent toujours pour renvoyer aux questions cruciales. La vie, la mort, la douleur, le bonheur, la nature, la culture, la servitude et la liberté. C'est bon comme formule.
Oui, mais elle n'est pas de moi.
C'est très beau.
Elle est celle des fondateurs de la revue, mais c'est véritablement ça. C'est-à-dire que, de toute manière, le droit ne se saisit que de ce qui compte. Et pour le coup, l'animal, vous le trouvez absolument partout. Toutes les relations qu'on entretient avec lui sont extrêmement complexes, variées. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une logique binaire. Il faut essayer justement d'avoir une logique aussi également un peu plus complexe et de conciliation entre plusieurs intérêts en présence, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêts contradictoires à concilier.
Alors, il y a évidemment de multiples dossiers, expérimentation animale, corrida, on vient d'en parler, élevage industriel. La Chine fait partie des sujets que vous avez traités récemment, parce qu'il s'y passe évidemment pas forcément les mêmes choses que dans d'autres pays. Les biotechnologies, enfin j'en cite beaucoup. Votre créneau à vous, Claviade, si j'ose dire, c'est plutôt les études prospectives, non, sur l'animal?
Oui, alors on a une partie qu'on anime avec Lucille Boisseau-Sowinski pour essayer de susciter le débat. La revue est une revue qui a une liberté de ton, hein, c'est-à-dire qu'on nous a reproché, enfin certains nous ont reproché, je dirais les chasseurs nous ont reproché, puisque c'est une notoriété publique. Le fait que l'on ne présentait les choses que sous un angle, c'est absolument fou. Tous les points de vue sont acceptés.
Un angle militant, il voulait
oui,
dire.
Oui, voilà, je pense que c'était ça. Enfin, de toute manière, ça visait la revue, ça visait également le DU de droit animalier, avec une mauvaise lecture des intitulés de la formation où ils imaginaient qu'on ne parlait absolument pas de droit de la chasse, mais en fait, si, on parlait de droit du vivant, donc la question de la chasse était envisagée. Non, dans la revue, tout le monde peut intervenir, tout le monde peut faire valoir son point de vue. Bon, il y a évidemment les limites de la critique admissible, mais on intervient dans tous les domaines, on accepte tous les points de vue. Donc, effectivement, on peut avoir un certain nombre d'études prospectives.
Alors, le droit français, où en est-on? Eh bien, il y a cette fameuse loi. Je pars de celle-là, il y a peut-être d'autres choses à dire auparavant, vous allez nous les éclairer. Loi 2015-177, qui date de février 2015, et qui a défini au Parlement les animaux comme des êtres, je cite, « êtres vivants doués de sensibilité ». Beaucoup ont jugé cette évolution très importante. Il n'empêche que les animaux demeurent, sous réserve des lois qui les protègent, soumis au régime des biens. Ils ne bénéficient pas encore d'une personnalité juridique, pas encore ou peut-être jamais, ni d'un régime juridique nouveau. Gilles Boeuf, le biologiste que nous avons reçu avant vous, disait « mais on n'a pas avancé sur le droit, l'animal reste un meuble ».
Comme toute chose, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Bon, moi, je suis pessimiste, mais je vais essayer d'adopter un point de vue optimiste. L'opération est importante quand même, parce que c'est une opération de décrochage entre la qualification et le régime qui s'applique. L'animal est être sensible, mais on le savait, il l'est depuis en France, on pourrait même dire depuis 1850, c'est-à-dire à partir du moment où on a commencé à le protéger pénalement. évidemment. Il est affirmé en tant que tel depuis 1976, puisque dans la loi de protection de la nature, il était fait mention de la sensibilité de l'animal. En droit de l'Union européenne, on le sait depuis 1997, et donc on attend 2015 pour avoir cette loi, qui est une loi importante, puisqu'elle modifie le code civil. Et le code civil, c'est un code extrêmement important, peut-être plus important pour les privatistes que pour les publicistes, mais très très important. Donc c'est important, non, l'animal a été extrait de la catégorie des biens, puisqu'on ne dit pas que c'est un bien. On dit que c'est un être vivant doué de sensibilité, donc ce n'est pas un bien. Les lois qui s'appliquent à lui, ce sont les lois qui les protègent, mais sous réserve de ces lois qui les protègent, effectivement, on lui applique le régime des biens. Il est possible de le détenir, il est possible de l'approprier. Mais ça, c'est la réalité des faits dont le droit se saisit. C'est ça qui est compliqué.
C'est très compliqué.
Il n'est pas dans les biens, mais il n'est pas dans les personnes. C'est pour ça que c'est cette opération de décrochage entre la qualification et le régime qui s'applique à lui.
On peut parler d'un droit non humain.
De toute manière, on peut parler d'animal humain. Si vous me dites qu'il est non humain, c'est qu'à ce moment-là, on peut dire que l'humain est un animal.
Animaux.
Voilà. Mais de toute manière, c'est comme ça, parce que si vous prenez le texte de la directive de 2010 sur l'expérimentation animale, elle dit bien qu'il est interdit d'expérimenter sur les animaux humains. Donc, bon, a priori, il y a bien des animaux humains et des animaux non humains sur lesquels on peut expérimenter. Mais le droit, en fait, distingue entre les personnes et les choses. Du côté de la personne qui est l'humain, on trouve la personne physique. Bon, là, c'est effectivement l'humain. Et ensuite, on trouve la personnalité morale, qui est une fiction juridique, enfin, une personnalité fonctionnelle. Et ensuite, vous avez effectivement les choses, et on distingue entre les choses qui sont appropriables ou celles qui ne le sont pas. Effectivement, si on considère qu'il n'est pas dans les personnes, il est automatiquement dans les choses. Mais en même temps, si on lui donne la qualité d'être vivant, doué de sensibilité, il n'est pas complètement dans les choses. Bon, faudrait avoir une vision de superposition des catégories.
Mais c'est ce qu'il fallait mettre en avant.
Si je suis complètement objective, on peut le considérer comme un être vivant doué de sensibilité, auquel le régime des biens s'applique, ou alors on peut le considérer comme un bien qui mérite une considération spéciale parce que c'est un être vivant doué de sensibilité.
Dans l'un de vos articles, par exemple, vous dites on pourrait aussi envisager d'aller jusqu'au bout des choses, vous mettez choses entre guillemets. Et là, vous parlez de l'animal de compagnie. L'animal de compagnie, il est possédé par les hommes.
Hein. Tout à fait.
On est d'accord. Qui décide ou pas de le sortir, de ne pas le sortir. Instaurer le permis de détention de l'animal de compagnie, ça peut s'envisager, ça?
Alors, bon, j'ai dit ça en 2012, donc c'était il y a longtemps.
Ah, c'est très bien si ça évolue.
Depuis la Belgique, enfin la Wallonie l'a fait, puisqu'ils ont introduit un code avec une possibilité de détenir les animaux. Donc, il y a un permis de détention pour les animaux, qui n'est pas seulement le permis de détention pour les animaux de compagnie. Oui, bon, alors à l'époque, j'ai dit ça parce que j'imaginais qu'on ne pouvait détenir qu'une chose. Mais visiblement, la Wallonie nous prouve qu'on peut détenir un être sensible, puisque dans le code, il est également indiqué que l'animal est être sensible. Donc on peut envisager un régime de détention spécial, non plus pour les choses, mais pour les êtres vivants doués de sensibilité qui ne sont pas des choses.
Ce qui veut dire que c'est une sorte d'obsession, que l'homme est au centre de tout, donc c'est à lui de décider ce qui lui appartient, ce qui ne lui appartient pas. C'est de l'anthropocentrisme. Hein.
C'est de l'anthropocentrisme, mais c'est un peu normal. C'est nous qui concevons le droit et on le conçoit en considération de notre utilité, même en matière de protection de l'environnement, on a encore une approche extrêmement anthropocentrée. Pour l'animal, effectivement, avoir une approche moins anthropocentrée, ce serait le considérer pour lui-même, et plus le considérer seulement en fonction de l'utilité qu'il a pour nous. Mais est-ce qu'on est prêt à ce moment-là, passer dans un système où il n'y aurait plus aucune forme d'exploitation totale des animaux?
Est-ce qu'on ira jusqu'à dire que l'anthropocentrisme est une forme de maltraitance, c'est ça?
Je ne pense pas. L'anthropomorphisme peut l'être. C'est-à-dire qu'il ne faut pas humaniser les animaux. Et d'ailleurs, les règles de droit protègent, par exemple, les animaux de compagnie, justement, d'un certain nombre de comportements qui pourraient considérer à les humaniser. Je ne pense pas que ce soit bon pour un chien de porter du parfum, d'être habillé, etc. Alors qu'on a vu ce type de comportement.
Vous avez parlé du droit belge. Il y a plusieurs droits européens. On va y revenir en prenant des exemples très concrets. Mais c'est une des difficultés du droit français, par exemple, qui a reconnu cet article 2015. Par rapport à d'autres pays européens, on est en retard, on est en avance?
Globalement, le consensus sur le territoire européen, c'est un consensus, c'est une collègue, Katarzyna Begrabarczyk, qui l'a très bien démontré, qui montre que tous les États ont des lois protectrices de l'animal, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, bon, quand même, globalement, tous les États le considèrent encore comme une chose, mais il y a un mouvement émergent qui va vers le statut d'être sensible. Mais ce qui est logique, puisque de toute manière, en termes supranational, on a considéré que l'animal était être sensible, donc ça se diffuse ensuite du haut vers le bas dans les droits. Il y a des protections constitutionnelles, donc qui sont meilleures quand même que les protections législatives. Après, globalement, ce qui avait été identifié, c'est que ce sont plutôt les pays vers le nord de l'Europe, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique, le Luxembourg, le Royaume-Uni, très protecteur, qui sont plus protecteurs peut-être que ceux qui sont plus vers le sud et ceux qui sont plus vers l'est. Mais on n'a pas peut-être eu les mêmes préoccupations au départ. Et puis, les États ne sont pas rentrés dans le même temps dans l'Union européenne et on ne peut pas considérer les États sur un pied d'égalité en termes de protection des animaux, qui suit la condition de l'homme. Donc, évidemment,
faut pas l'oublier. Et puis, il y a aussi toute cette complexité du droit lui-même, hein, entre le droit civil, le droit pénal. On ne parle pas forcément de la même manière de l'animal dans ces cas-là. On doit le considérer comme un bien dans le code rural. Ça, je l'ai découvert en vous lisant, alors que ce n'est pas le cas dans le code de l'environnement. Pourquoi ? Dans la mesure où l'animal domestique relève du code rural, c'est une chose appropriée, alors que la faune sauvage, qui relève du code de l'environnement, n'a pas de propriétaire.
En fait, vous avez deux grandes catégories, l'animal sauvage, l'animal domestique. L'animal sauvage, donc, c'est celui qui n'a pas été sélectionné par l'homme et qui vit à l'état de liberté. Et lui, c'est ce qu'on appelle une res nullius, c'est-à-dire une chose qui n'appartient à personne. Donc pas d'appropriation possible. Les animaux domestiques qui ont été sélectionnés par l'homme sont des choses appropriables. Donc ils peuvent tomber dans la catégorie des biens, avoir un propriétaire, que ce soit les animaux d'élevage ou les animaux de compagnie. Mais on pourrait envisager l'animal sauvage comme une res non plus nullius, mais une res communis, c'est-à-dire une chose qui cette fois appartiendrait à tout le monde. Je préférerais d'ailleurs, moi je pense, cette solution, parce que je pense qu'une protection collective, même sous l'angle de la propriété, vaut mieux qu'un défaut de protection individuelle. Mais
ce serait une meilleure protection pour l'animal, vous voulez dire ?
Ce serait pas d'ailleurs très compliqué, puisqu'on considère déjà que la biodiversité fait partie du patrimoine commun, et la notion de patrimoine, c'est bien une notion de propriété. Donc je pense que ce serait mieux, oui, d'avoir cette conception de l'animal res communis plutôt que res nullius, ce serait meilleur pour lui. Après, de toute manière, s'affronteront les logiques qu'on connaît, c'est-à-dire de protection de l'animal parce que c'est bon pour la biodiversité, donc c'est bon pour l'homme, et puis d'une moindre protection pour ceux que l'on chasse ou pour ceux que l'on détruit parce qu'on les considère comme nuisibles. Enfin, maintenant on dit susceptibles d'occasionner des dégâts, mais c'est quand même leur caractère nuisible.
On ne dit plus nuisible. Le terme n'est...
Non, on ne le dit plus.
Le terme n'est plus très convenable.
Non.
Claire Vial, je lis un petit extrait qui est devant un article que vous avez rédigé dans cette revue. Donc, c'est tiré de Marcel Pagnol, La gloire de mon père. On sait qu'il y a des scènes de chasse mémorables en Provence. « En tout cas, s'écria ma tante, je te défends bien de tuer des canaris. Ni les canaris, ni les perroquets, c'est juré. Mais les culs blancs et les ortolans. Ah oui, les ortolans, c'est délicieux, dit ma tante. »
Oui, c'est terrible. Hein.
C'est terrible.
On fait des choix. On fait des choix. L'ortolan, bah, lui, en a été victime pendant un certain nombre d'années. Et c'est une tolérance coupable des autorités administratives françaises qui ont permis une dégradation considérable de l'espèce, hein, puisque elle est en voie d'extinction. On voit des images de l'INA, c'est ça qui m'avait particulièrement marqué d'ailleurs, parce qu'on a l'impression que c'est une pratique de chasse sympathique, parce que ce sont des petits vieux qui piègent les ortolans à l'aide de matoles, et puis ensuite qui les engraissent, etc. On ne parle pas de la manière dont ils meurent, visiblement ce n'est pas à l'ordre du jour, et puis ensuite on assiste aux scènes de dégustation, et puis on sait qu'il y a encore des grands chefs justement qui demandent à ce qu'on continue à déguster l'ortolan, mais derrière il y a de la souffrance. Ça, c'est une certitude. Et cette souffrance, oui, effectivement, pour certains, on ne l'imagine pas une seule seconde. Le canari, pour l'ortolan, c'est délicieux.
Et encore une fois, je crois que ça a déjà été dit cette semaine, mais cette différence que l'on fait d'un animal à l'autre qui a pas de sens en soi.
Bah, elle a le sens de nos représentations. Elle a le sens de nos perceptions et donc de la relation qu'on a avec l'animal. Et je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, je sais pas d'où ça peut venir, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui remontent à l'enfance et puis à l'éducation qu'on a eue à la maison, mais aussi l'éducation qu'on a eue à l'école. Et c'est là qu'on identifie les animaux qui méritent la protection et ceux qui ne la méritent pas. Ensuite, ça devient quand même beaucoup plus objectif, hein, c'est-à-dire que oui, on peut faire une différence entre ceux qui sont nuisibles et ceux qui ne le sont pas. Là, il y a quand même une réalité où on peut prendre des règles de protection à l'égard des animaux dangereux. Là aussi, la dangerosité peut parfaitement se définir et demander une réponse juridique. Mais au-delà de ces critères objectifs, oui, on est gouverné par les représentations qu'on a de l'animal entre les gentils et les méchants. Oui.
Tolérance administrative, on la retrouve aussi avec la chasse à courre, alors qui est une pratique autorisée. Avec son droit de suite, cette scène terrible, dont je pense beaucoup se souviennent, de ce cerf qui a été chassé jusque dans un jardin. Oui. et abattu dans le jardin en question. Il a essayé même de rentrer dans la maison en brisant une vitre.
Alors ça, c'était dans un autre...
Il y en a eu plusieurs. Alors
voilà, il y a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs serres, oui.
Mais qui a évidemment beaucoup choqué.
Ça a été choquant, ouais.
Or, ce droit de suite, ce droit de tuer, 79% des Français, semble-t-il, sont contre, hein, sa cour. Pourquoi est-ce que ça continue à exister ?
Là, je me méfie toujours un peu des statistiques et des sondages d'une manière générale. Oui, effectivement, les sondages montrent que les Français n'aiment pas la chasse à courre, mais les sondages montrent aussi, a priori, hein, que les Français n'aiment pas la corrida. Mais il n'y a pas derrière de véritables modifications des comportements qui pourraient aller jusqu'à demander aux législateurs d'intervenir. C'est à partir du moment où la pression de l'opinion publique est très très forte qu'il y a une action du législateur.
Alors, elle est interdite, je le précise, en Allemagne depuis 50 ans, en Belgique depuis 95, en Angleterre et Pays de Galles, c'est intéressant parce que
c'est la naissance.
Ouais. Depuis 2005, ouais. Donc tous ces Européens-là viennent chasser en France. Ils ne sont pas si nombreux que ça, il faut le
préciser.
C'est ce qu'on dit. Hein.
C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est qu'il y a des équipages qui sont constitués aussi de chasseurs étrangers, ce qui paraît tout à fait probable. Moi, j'ai été à la chasse à courre. Je dois avouer que c'est une ambiance très particulière et que c'est assez incroyable et on peut concevoir que les chasseurs y prennent du plaisir. Derrière, la souffrance est intense, j'imagine. Enfin, l'animal traqué, c'est très compliqué. Et ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, qui a été médiatisée en plus, où on voit ces images du cerf tué sur une propriété, c'est vraiment la détresse des gens qui auraient souhaité intervenir pour sauver le cerf en question et dont on n'a pas pris la mesure, ou en tout cas, on n'a pas pris en considération leur volonté de s'opposer à la mort de ce cerf.
Parce qu'encore une fois, le droit existe, droit de suite, droit de tuer.
Oui, enfin, sauf que là, il a quand même été un peu malmené, parce que normalement, le droit de suite se justifie quand l'animal est blessé. Pour la chasse à courre, c'est particulier, il faut qu'il soit aux abois, mais il faut que l'animal soit blessé, et à ce moment-là, on n'a même pas besoin du consentement du propriétaire. Et là, ce qui était quand même un peu curieux, c'est que, a priori, les forces de police ont demandé le consentement à la propriétaire très rapidement, par téléphone. Ensuite, elle a dit que son consentement n'était finalement pas si libre et éclairé parce qu'elle n'avait pas eu le temps de réfléchir à la question. Normalement, on n'a pas le temps de demander le consentement de quelqu'un quand un animal est en telle souffrance qu'il faut appliquer le droit de suite et à ce moment-là recourir à une exécution qui ressemble à une euthanasie comme on pourrait avoir dans un cabinet vétérinaire. Je pense que les choses se sont pas passées de la bonne manière et je pense d'ailleurs que l'équipage aurait dû se retirer plutôt que de passer par un tel acharnement qui n'est pas bon pour eux, hein, puisque ça donne une très très mauvaise image de la chasse à courre. Et je pense que ça aussi devrait s'en rendre compte, en prendre la mesure. C'est que c'est pas une bonne solution d'être dans l'extrémisme d'une manière générale, mais celle-là en particulier.
Et d'autres formes de chasse.
À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils Prosper, sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, tu ne veux pas aller, et pourquoi donc ? Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui ne m'a rien fait, papa ? Va la péper, va la pêcher toi-même, puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors, dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon. La mer était mauvaise, la soupe était bonne. Et voilà sur sa chaise Prosper qui se désole. À la pêche à la baleine, je ne suis pas allée. Et pourquoi donc que j'y ai pas été ? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger. Mais voilà la porte qui s'ouvre, et ruisselant d'eau, le père apparaît hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table, une belle baleine aux yeux bleus, une bête comme on en voit peu, et dit d'une voix lamentable « Dépêchez-vous de la dépecer, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger !» Il a faim, il a soif, il veut manger. Et voici Prosper qui se lève, regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleus comme ceux de la baleine aux yeux bleus. Puis il jette le couteau par terre, mais la baleine s'en empare, et se précipitant sur le père, elle le transperce de père en part. Dit le cousin à Gaston, ça me rappelle ma chasse, la chasse aux papillons. Et voilà Prosper qui prépare les faire-part. La mère qui prend le deuil de son pauvre mari et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit. Soudain, elle s'écrie « Et pourquoi donc j'ai tué ce pauvre imbécile ? Maintenant, les autres vont me pourchasser en motogodille, et puis ils vont exterminer toute ma petite famille. » Alors, éclatant d'un rire inquiétant, elle se dirige vers la porte et dit à la veuve en passant « Madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez. La baleine est sortie. Asseyez-vous, attendez-la. Dans une quinzaine d'années, sans doute, elle reviendra. »
France Culture, Matière à penser, Dominique Rousset.
Et le cinquième épisode de notre série, L'animal et l'avenir de l'homme, nous parlons de l'animal saisi par le droit en compagnie de Claire Vial, qui est professeure de droit à l'Université de Montpellier et qui s'intéresse beaucoup à ce droit animalier. Nous avons parlé, nous, du cerf, ici c'était la baleine, poème de Jacques Prévert, encore un animal chassé de manière assez brutale. Allons un petit peu plus loin avec vous, Claire Vial, sur cette question du droit. Au fond, de quoi s'agit-il ? De promouvoir le bien-être de l'animal, de rejoindre la question de l'éthique, améliorer la condition de vie des animaux ? C'est cela que le droit se propose de faire.
L'approche du droit, c'est une approche qui est fondée sur une approche welfariste. Donc, c'est effectivement la raison pour laquelle on parle de bien-être animal. Même si parfois les étudiants d'ailleurs sont un peu surpris, disent mais on peut pas parler de bien-être quand on parle des conditions dans lesquelles ils sont abattus. Ben si, on peut parler de bien-être, ou alors on part de l'idée qu'on n'abat plus les animaux, donc on ne les consomme plus. C'est une possibilité, mais pour l'instant c'est pas la réalité dont se saisit le droit.
On sort des frontières françaises, on va aller sur l'Union européenne, la marge de manœuvre justement des pouvoirs publics face aux compétences de l'Union européenne. Regardons cet exemple de l'étourdissement, enfin de l'abattage de l'animal sur lequel vous avez beaucoup travaillé.
La question d'ailleurs est...
Vous aviez interrogé le gouvernement français qui vous a renvoyé vers l'Union européenne.
Là, c'était pas sur la question de l'abattage avec... Non, c'était sur les tourismes. C'était sur le problème de l'abattage des animaux gestants. Voilà, c'est-à-dire des vaches qui étaient dans le dernier tiers de la gestation. Mmh. Les Français d'ailleurs découvraient qu'on abattait des animaux en gestation.
C'est ça, c'était sur ce point précis.
Voilà, sur ce point précis. Mais on peut parler également de l'abattage rituel, puisque c'est un peu la même logique qui s'applique. Les règles qui gouvernent l'abattage sont entièrement harmonisées à l'heure actuelle par un règlement de 2009. Depuis 1974, en fait, on procède à une harmonisation, et maintenant l'harmonisation est bien installée, donc avec un règlement de 2009. Donc la marge de manœuvre des États est plus étroite que quand ils étaient seuls et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais il reste quand même une latitude d'action, et chaque État peut quand même... maintenir ou adopter des législations plus protectrices de l'animal à condition de ne pas se placer en contrariété frontale avec d'autres règles du droit de l'Union européenne.
Mais alors dans ce cas précis, vous aviez demandé au gouvernement français, c'était en novembre 2016, c'était pas si loin, d'interdire l'abattage des animaux gestants. Oui. On vous a répondu ni par oui ni par non, c'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture a préféré attendre et vous a dit nous interrogeons la Commission européenne sur les perspectives d'évolution réglementaire. Mais ça pouvait prendre un certain temps en matière de transport et d'abattage.
La Commission européenne a répondu depuis.
Bah, j'espère.
Et elle a, alors non, mais elle a répondu pas du tout au gouvernement français, parce que je ne sais pas ce qu'il avait posé comme question et ce qu'elle a pu lui répondre. Mais d'une manière très générale, elle avait demandé à l'EFSA, l'Agence de sécurité européenne des aliments, une expertise scientifique. Et à partir du moment où l'expertise scientifique ne lui a pas indiqué que les animaux dans le ventre de leur mère souffraient suffisamment, elle a décidé qu'il n'y avait pas de raison de faire une proposition de texte au Conseil et au Parlement européen. Donc à partir de là, on peut considérer que c'est une réponse qui est justifiée par l'expertise scientifique. Globalement, le ratio était que les experts pensaient que on avait un tiers de chances qu'ils souffrent dans le ventre de leur mère. Donc, derrière l'expertise scientifique, il n'y a pas eu de décision politique. Sachant en plus qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'animaux gestants qui sont abattus et que ce n'était pas non plus un problème qui paraissait
essentiel. Pas d'évolution depuis, nous sommes en 2019.
A priori, non, il n'y a pas de raison que ça évolue. Là où ça pourrait évoluer, en revanche, et là c'est beaucoup plus actuel, c'est sur la question de l'abattage rituel. Parce qu'il y a un mouvement qui se dessine dans certains États en faveur de législations plus restrictives en termes d'abattage sans étourdissement préalable. naturelles. Et il y a même des États qui sont sur la voie de l'interdiction totale de l'abattage sans étourdissement. Et à ce moment-là, évidemment, c'est la fin de l'abattage, rituel. Et là, ça va poser des difficultés. Alors, ça va poser des difficultés en termes d'harmonisation des législations du côté de l'Union européenne. Il va falloir régler un certain nombre de questions de ce point de vue-là. Et puis ensuite, évidemment, là, on a une confrontation difficile entre la liberté de religion et l'objectif de protection des animaux. La Belgique est sur cette voie à l'heure actuelle et c'est les réactions qu'on peut lire à l'égard de l'attitude de la communauté flamande, puisque c'est elle qui a lancé le mouvement. Les réactions sont très dures, hein, de la part des communautés juives et musulmanes.
Bien sûr. Sur le bien-être, d'ailleurs, c'est pas si évident que ça, le bien-être animal que vous défendez, bien entendu. Il y a des écarts très importants. Les États membres n'ont pas tous la même définition. Ça simplifie pas les choses. Ça, c'est d'ailleurs.
Alors, ils
n'ont
pas la même conception.
Directive.
Ils n'ont pas la même conception du bien-être. En revanche, leurs droits sont quand même harmonisés parce que, s'agissant des animaux d'élevage, la compétence est celle de l'Union européenne et elle l'a beaucoup exploitée. C'est une compétence qu'elle partage avec les États. Mais quand elle préempte le domaine, qu'elle agit, elle a pris beaucoup de mesures quand même. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais globalement, tout ce qui concerne l'élevage, le transport, l'abattage, est issu à 80%. Du droit de l'Union. Ça veut dire que ça entraîne automatiquement une forme d'unification des perceptions des États qui sont gouvernés par le droit supranational.
Ça veut dire que si un État décide de prendre une mesure, alors à condition que l'Union européenne n'en ait pas prise, c'est bien ça, hein, il peut agir...
Alors il peut agir également sur la base d'une mesure qui a déjà été prise. Tout dépend du standard d'harmonisation qui a été choisi. Si les États ont choisi d'harmoniser leurs droits sous un angle minimal, c'est-à-dire de permettre un niveau de protection plus élevé, évidemment que les États peuvent adopter ce type de niveau de protection plus élevé. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en même temps, ils doivent faire attention à ne pas nuire au marché intérieur et à réintroduire des disparités entre les législations.
Alors voilà,
nationales.
C'était le point que je voulais dire, c'est l'obstacle, en fait, c'est le principe de la libre circulation.
Des marchandises.
Bah, ce qu'on appelle ça, des marchandises,
oui, mais
évidemment.
De toute manière, les animaux sont des marchandises.
Vivants ou morts?
Les deux. De toute manière, dans la nomenclature déjà de la politique agricole commune, on parle d'animaux, de produits animaux, de sous-produits animaux, hein, ceux qui en sont issus. Et tout le droit de l'Union est construit toujours encore autour de l'idée que l'animal est une marchandise. De toute manière, l'ADN de l'Union est économique, on le sait, on peut s'en désespérer, même si elle a beaucoup évolué, mais ça, on le sait. Donc la première appréhension, c'est l'appréhension économique, même si l'Union a beaucoup fait pour essayer de protéger les animaux, même si c'est pas suffisant, je suis évidemment d'accord. La racine, c'est que c'est un bien qui est bon pour le développement économique.
Et si la France, par exemple, ou un autre État, décidait d'adopter un texte plus protecteur, mais décidait seul, qu'est-ce qu'il se passerait? Il y a des sanctions?
Oui, mais alors, bon, je suis toujours étonnée quand les États se drapent dans le souhait de respecter le droit de l'Union européenne. Enfin, si je prends justement l'exemple de la chasse à l'ortolan, la France n'a pas fait en sorte de respecter le droit de l'Union pendant 20 ans, en ayant adopté les règles pour transposer le droit de l'Union, mais en n'ayant pas fait en sorte que ces règles soient appliquées sur son territoire. Et là, visiblement, ça n'a dérangé personne. Pour l'abattage, qui était l'exemple qu'on avait pris donc pour les animaux gestants, les risques sont quand même mesurés. Soit la France est en contrariété avec le droit de l'Union et effectivement, elle peut se retrouver en situation de manquement à ses obligations. Soit finalement, l'approche qu'elle revendique est une approche qui est conforme au droit de l'Union. Donc il n'y a pas de contrariété, il n'y a pas de difficulté. Et si vraiment, vraiment, elle se trouve dans une situation où elle est en contrariété, rien ne dit que d'autres États ne pourront pas aussi se placer en contrariété et qu'à ce moment-là, ces États autour de la table décideront de relever le niveau de protection. De toute manière, derrière l'Union, il y a les États. Il y a le Parlement européen aussi, évidemment, c'est important. Il y a le Parlement européen, mais qui est
Est-ce
généralement...
qu'il y a beaucoup d'avis déposés au Parlement, par exemple? Est-ce que c'est un sujet qui
Alors, le Parlement européen, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de textes adoptés au niveau de l'Union européenne qui touchent directement à l'animal, à l'environnement, à la sécurité alimentaire, enfin, des choses qui sont essentielles pour nous. Et les députés européens, à l'heure actuelle, oui, développent une forme de sensibilité, je dirais pas sensible, rien de sensibilité, à l'égard des animaux.
Qui est en forte progression. Enfin, vous remarquez qu'il y a beaucoup de...
Beaucoup plus. Il n'y a pas que ça à juger du travail du Parlement européen. Il y a des choses moins intéressantes. Mais globalement, si, on a vu une volonté de protéger mieux l'animal et l'environnement, je pense.
Alors, vous faites aussi le lien dans plusieurs des articles que l'on peut voir dans cette revue animalière sur la circularité, hein, c'est le terme que vous employez, entre les animaux et les humains dans l'usage du végétal. C'est très important le végétal, et on a déjà eu l'occasion de le dire dans les autres émissions que nous avons faites, parce que le végétal, ben, c'est déjà de fournir suffisamment de quoi nourrir les animaux, qui sont, comme on le sait, les animaux de production, extrêmement nombreux aujourd'hui sur notre planète, probablement trop nombreux. Donc ce lien est absolument évident pour vous, et là encore, le droit peut intervenir et largement. On va prendre l'exemple des biocarburants, mais plus généralement, dites-nous,
On peut envisager les choses de deux manières, c'est-à-dire que le végétal nous place en situation de concurrence, puisque les animaux comme les hommes consomment le végétal, mais aussi on est en rapport de complémentarité. Bon, j'avais dit circularité, mais c'est-à-dire que il y a une complémentarité, ne serait-ce que parce que nous consommons aussi l'animal qui consomme le végétal. Ce sont ces rapports-là qui font qu'on doit avoir un souci particulier pour le végétal et qu'on l'a peut-être pas toujours eu. Et le problème, effectivement, s'est manifesté avec une acuité particulière pour les biocarburants. On voit que l'enfer peut être pavé de bonnes intentions, dans la perspective notamment de lutter contre le changement climatique, qui est un combat d'importance.
Beaucoup d'enthousiasme, on le rappelle, hein, au départ.
Oui, oui. Ah, mais de toute manière, c'était plutôt une bonne idée.
Vivement recommandé.
Non, mais c'était une bonne idée de dire il faut dépasser les énergies fossiles qui, de toute manière, ne sont pas inépuisables, qui sont source de problèmes même sur la scène géopolitique. On va utiliser les énergies renouvelables. Très bien.
On le rappelle peut-être, biocarburant, c'est ces combustibles qu'on utilise à partir de la biomasse. La biomasse, c'est-à-dire tout ce qui est biodégradable, hein, les déchets, les résidus d'origine biologique.
Ça, c'est plutôt la dernière génération. Mais c'est vrai qu'au départ, on utilisait
le végétal. Moins élaboré, voilà. Vous avez raison.
Voilà.
On partait d'abord du
végétal.
Voilà,
et c'était un peu le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, il a fallu faire des choix entre ce qui relevait de l'utilisation du végétal au titre de la consommation de l'aliment. De l'aliment pour nous,
humain.
Pour les animaux d'ailleurs, qu'on consommait nous. Et puis, ce qui relevait de l'utilisation pour la fabrication de biocarburants.
Comme combustible pour remplacer effectivement
l'énergie fossile. Et alors là, on a fait des choix et peut-être que ces choix effectivement étaient problématiques en termes d'affectation des sols puisque on a commencé à grignoter des terres qui étaient normalement réservées à la biodiversité. De toute manière, tout est une question d'équilibre, hein, en matière de protection de l'environnement. On le sait, c'est la logique du développement durable, mais pour l'animal, c'est exactement la même chose. On peut pas protéger l'animal sans prendre en considération les incidences économique et sociale, c'est pas possible.
Oui, dans l'usage du végétal, les animaux et les humains sont évidemment en concurrence. Sauf que si le végétal n'est plus là, les animaux et les humains disparaîtront.
Aussi.
Aussi. Mais c'est nécessairement déloyal quand même pour les animaux, dans la mesure où c'est l'homme quand même qui décide, qui prend une position de force. C'est l'homme qui décide de planter des milliers d'hectares.
Bien sûr. Ou de les déplanter.
Ou de les déplanter au détriment de l'animal.
De créer de la souffrance, là aussi. Bon, enfin, on l'a vu, en particulier pour les grands singes, hein. Ça a été catastrophique.
C'est ça, c'est l'homme qui décide, par exemple, de consacrer des hectares aux activités agricoles au détriment de la faune sauvage.
C'est aussi l'homme qui va créer des réserves, etc. C'est-à-dire que l'homme peut défaire, l'homme peut faire, oui.
Où on en est avec les biocarburants aujourd'hui? Il y a une vingtaine d'années, ce dont on parle.
On essaye justement de réintroduire des biocarburants vraiment fixés sur la biomasse, avec une notion de déchets des végétaux.
C'est maintenant qu'on essaie de...
On n'est plus dans cette logique-là, c'est-à-dire d'être dans une logique vertueuse. D'utilisation de ce qu'on consomme par ailleurs, etc. Enfin, de plus avoir justement ces problèmes d'affectation des sols qui posent d'autres problèmes ensuite en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir une seule action sans penser toutes ces conséquences. Mais en même temps, il faut pas non plus que ce soit un frein à l'action. Parce que sinon, on n'avance jamais, effectivement, et il y aura jamais de protection de l'animal. Si on est timide, timoré, il ne se passera rien.
Mais l'Union européenne a très très fortement soutenu ces biocarburants, puisqu'elle était évidemment pour augmenter la part des énergies renouvelables, même si par ailleurs elle est très dépendante de pétrole et de gaz, comme on le sait.
Non, mais après c'est un problème technique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à trouver les moyens techniques d'éviter les effets secondaires, je pense que c'est une bonne chose, et qu'évidemment les énergies renouvelables sont importantes. Mais ce ne sera pas le seul problème des biocarburants, ce sera le problème des éoliennes qui éventuellement peuvent être problématiques du point de vue de la protection de l'environnement ou problématiques du point de vue de la protection des animaux et des espèces qui sont dans cet environnement. Ce sera le problème des panneaux solaires, ce sera le problème de tout en fait.
Qu'est-ce qui doit évoluer de votre point de vue plus rapidement en matière de droit animalier ?
Ce qui sous-tend le droit, c'est-à-dire les mentalités. Ce qui est impressionnant, c'est que... pour l'Union européenne, c'est encore plus impressionnant peut-être que pour un État, parce qu'il y a 28 États, donc 28 sensibilités nationales, 28 peuples européens. Quand l'Union européenne agit, ça veut dire qu'elle a pris la mesure quand même d'une évolution au niveau de l'opinion publique européenne. Et il y a eu des cas d'évolution très connus et très marqués. Enfin, quand l'Union européenne a décidé qu'il n'y aurait plus de produits dérivés du phoque sur son territoire, c'était en réaction aux images de massacres des phoques au Canada. Et elle a décidé qu'il n'y aurait plus que la chasse traditionnelle au phoque qui permettrait de faire venir les produits dérivés du phoque sur le territoire de l'Union européenne. C'est l'opinion publique. Derrière ça.
J'allais le dire, là, c'était devenu insupportable pour l'opinion publique.
C'est ça. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on n'a pas normalement, si tout se passe bien, si les règles s'appliquent correctement, pourquoi est-ce qu'on ne porte pas de fourrure de chat et de chien sur le territoire européen ?
Interdit.
C'est bien parce que les citoyens n'en veulent pas.
Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, hein, la fourrure de chien et de chat.
Oui, ça fait que si, quand même, un petit bout de temps. C'est comme les pièges à mâchoire, ça fait un certain temps. C'est juste que les textes ont été adoptés antérieurement et puis qu'on les modifie régulièrement et qu'on les donne dans les versions en vigueur maintenant. Mais non, globalement, l'opinion publique européenne peut faire beaucoup. Et d'ailleurs, quand la Commission européenne veut agir, elle commande souvent ce qu'on appelle des eurobaromètres. Et le dernier eurobaromètre sur l'attitude des citoyens européens à l'égard du bien-être animal date de mars 2016. Il montre des choses positives et des choses négatives. La chose positive, c'est que quand même, il y a plus de 90% des gens qui veulent qu'on protège mieux les animaux, en particulier les animaux d'élevage. L'aspect négatif, c'est encore une fois une contradiction, mais qui peut s'expliquer, c'est que quand on leur demande, par exemple, s'ils veulent être mieux informés des conditions d'élevage, et ça peut se voir sur un étiquetage qui est du domaine de l'Union européenne, ils n'ont pas nécessairement envie de savoir. Et puis la dernière chose qui est dramatique, mais qui est la réalité, c'est que si on leur demande s'ils sont prêts à payer plus pour cette protection de l'animal, puisqu'elle a un coût, là, ils deviennent un peu plus nuancés, et en particulier, plus on augmente le coût du produit final, et là, moins ils sont d'accord pour payer. Donc il y aura des évolutions, c'est certain, mais il faut qu'elles soient portées par l'opinion publique, et il y a un outil qui est très utile pour ça, c'est l'initiative citoyenne européenne, puisque dans le système du droit de l'Union, on a un pouvoir propositif des citoyens.
Encore un cas désolant, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est le cas de l'abeille. Et pour vous, alors voilà un exemple parfait de circularité, dans l'usage du végétal. Mais alors l'abeille, je l'ai appris en vous lisant quand même. Bon, on le sait, son rôle dans la nature fondamental, la pollinisation est absolument indispensable, même si certains imaginent de manière folle qu'on pourrait les remplacer par des drones, enfin c'est absurde. L'abeille est en danger. Malheureusement, l'Union européenne n'a pas forcément réagi comme on aurait pu le penser en interdisant, par exemple, les pesticides.
Oui, ça va mieux. Ça va mieux.
Enfin, je dis malheureusement parce que le constat, je pars du constat scientifique, pas de mon opinion.
Oui, oui. Le constat n'est pas bon.
Voilà. On est d'accord.
Non, mais ça, c'est très vrai.
On est d'accord.
De toute manière, oui, il y a une situation de disparition des. Non, mais c'est dramatique même. Il y a une disparition des abeilles qui a été...
Mais alors pourquoi l'Union n'est pas plus décidée que ça ?
Alors, elle a fini par se décider un peu plus. C'est-à-dire qu'au départ, elle est restée dans une logique de restriction de l'utilisation des pesticides. Et la restriction de l'utilisation des pesticides, c'est pas ce qu'on lui demandait. Ce qu'on lui demandait, c'était l'interdiction des pesticides. Mais comme bien souvent, elle a attendu des expertises scientifiques.
Elle parlait d'incertitudes, c'est ça ?
Voilà. Les incertitudes ont été levées. Elles ont été levées en mars 2018, il me semble, et elle a commencé à communiquer sur le sujet en avril 2018 en disant que les États étaient prêts à prendre des mesures d'interdiction des pesticides sur le plan européen. Alors après, en revanche, il faut bien comprendre que les
États... Elle est prête à le faire, c'est pas fait.
C'est quasi fait. Enfin, c'est-à-dire que les États ont commencé à travailler sur la question Après, il faut faire les choses de manière progressive. Vous pouvez pas dire aux agriculteurs, d'un coup, vous n'aurez plus, absolument plus rien sur le marché pour planter et assurer la pérennité de vos cultures, à part ceux qui sont en bio. Les choses paraissent lentes. Le seul problème, c'est l'expertise scientifique. C'est pour ça que je ne suis pas toujours d'accord pour avoir accordé trop de place à l'expertise scientifique. Normalement, le principe de précaution permet d'éviter justement cette trop grande importance qu'a l'expertise scientifique.
Oui, parce qu'on attend les données, des données très représentatives. Il faut qu'elles correspondent, qu'elles soient comparables d'un pays à l'autre.
Et ça peut prendre,
ça prend beaucoup de temps.
Et voilà. Ça entraîne des risques de dégradation énormes et irréversibles.
Il y a quand même des pesticides qui font l'objet de restrictions, il faut le dire. C'est pas non plus.
Mais bientôt, ce sera une interdiction. Ce qu'il faut, c'est des méthodes de substitution.
En attendant, les abeilles disparaissent.
En attendant, elles disparaissent. Mais elles ne disparaissent pas que pour ça. Elles ne disparaissent pas que pour les pesticides.
Oui, c'est aussi une des réserves.
Voilà, il y a les problèmes du frelon asiatique, qui sont des problèmes qu'on connaît d'espèces envahissantes et contre lesquelles elles n'ont pas de possibilité de se défendre. Encore que paraît-il, elles ont commencé à comprendre comment faisaient les abeilles asiatiques pour se défendre contre les frelons asiatiques. Donc, mais là, c'est pas le droit qui les aide.
Encore un paradoxe, l'échec donc sur les fameux néonicotinoïdes qui posent aussi beaucoup de problèmes, les semences qui ont été traitées avec ces produits. Échec, enfin, c'est dans l'article que j'ai pu lire de vous, dans la mesure où les dérogations à l'interdiction peuvent être accordées jusqu'en juillet 2020, ce qui évidemment met en colère associations.
En France, c'est ce qui a été choisi, c'est d'avoir une démarche véritablement progressive. Mais de toute manière, la démarche française s'explique aussi par la démarche de l'Union européenne. Mais il y aura une évolution. Peut-être que ce sera trop tard, j'espère pas. Il y aura une évolution. Mais c'est un problème plus global, l'abeille, qu'il faut traiter impérativement par tous les moyens dont on dispose.
C'est ma toute dernière question, Claire Vial. Êtes-vous optimiste sur l'évolution du droit en faveur?
Voilà. Alors, je vous ai dit que j'étais quelqu'un de profondément pessimiste.
C'est évidemment
problématique. Non, je veux être optimiste.
Eh bien, on va rester là-dessus. Je vous remercie.
Je vous remercie
infiniment d'être venu nous trouver.
Bonsoir.
Claire Vial, donc professeure de droit public, tout à fait impliqué dans ces questions de droit animalier, dont on a dit qu'il était encore assez peu répandu dans notre pays et ailleurs, mais en assez forte progression. Nous avons parlé d'une matière émergente. Voici pour clore donc notre série « L'animal et l'avenir de l'homme ». Avec une réalisation, et on les en remercie beaucoup, d'Anne-Laure Chanel et Claude Niort ce soir, avec à la préparation et la documentation, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet. Très très bonne soirée à tous et à bientôt.